France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. Deux ans de recours et de mobilisation, une audience cruciale ce matin à Toulouse. La justice s'est penchée sur le chantier très controversé de l'autoroute A69. Sur le fond du dossier, les opposants étaient nombreux dans la salle et devant le tribunal. On part sur place dès le début de ce journal. Des airbags qui risquent d'exploser. Et voilà 236 000 clients de Citroën appelés à ne plus utiliser leur voiture et se rendre rapidement chez le concessionnaire. Le groupe Stellantis a lancé un nouveau rappel massif. Ce qui va lui coûter cher, on va le voir. Et ce qui marque aussi une nouvelle étape dans cette affaire des airbags défectueux. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Car ça concerne aussi d'autres constructeurs.
Oui, une trentaine de constructeurs et même 150 modèles de véhicules différents sont concernés par ces problèmes d'airbags dangereux.
Et on verra tout ça en détail avec vous. Merci Anne-Laure Barral. Comment lutter contre la criminalité organisée en Corse? Et pourquoi les homicides sont-ils si nombreux sur l'île? Question posée à notre invité à 13h30, Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité. Après la mort ce week-end d'une étudiante de 19 ans tuée par balle, n'hésitez pas à intervenir 01 45 24 7000. Au programme aussi dans les prochaines minutes, Volodymyr Zelensky de plus en plus isolé alors que les négociations commencent entre les États-Unis et la Russie. On ira à Kiev. Richard Ferrand pas certain de voir sa candidature validée à la présidence du Conseil constitutionnel. En tout cas, les Républicains s'y opposent. Et puis on évoquera le désarroi de ces restaurateurs du Périgord. Ils vont peut-être devoir débaptiser leur établissement, le Petit Léon, car le groupe de brasserie Léon les menace d'un procès.
On a un petit restaurant, c'est juste moi, c'est unique, et c'est pas moule frite.
C'est David de Goliath. On ne veut pas se battre, on veut pas des problèmes, on veut juste rester le Petit Léon.
Reportage à suivre dans le Périgord. Et puis pour nous emmener jusqu'à 14h, Cyril Petit nous racontera la folie des karaokés, danser la France, et puis Michael Jones parlera de son amour des Beatles au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Voilà, vous avez le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Des manifestants et des banderoles devant le tribunal de Toulouse et un public qui s'est massé nombreux dans la salle. Rarement une audience devant la justice administrative suscite autant d'attention. Mais celle-ci était attendue depuis près de 2 ans, depuis leur premier recours par les opposants à l'A69, cette autoroute qui doit relier Castres à Toulouse et qui est un non-sens écologique, disent les associations. Associations qui s'étaient donné rendez-vous dès 8h ce matin devant le tribunal pour se faire entendre. Écoutez par exemple Alain Hébrard, membre du collectif historique d'opposants, la voie est libre.
On attend que les juges aient le courage de décider en droit et non pas sous la pression du gouvernement, des pouvoirs et des lobbies du BTP. Le droit est de notre côté à tout point de vue. C'est une autoroute totalement inutile qui ne servira qu'à quelques-uns. Elle est payante à un tarif que les gens ne voudront pas payer. C'est un projet d'un autre âge, c'est-à-dire où il faut dépenser de plus en plus de distance pour échanger le plus en plus loin des marchandises d'un bout à l'autre de la planète. C'est un modèle qui est de toute façon périmé parce qu'il n'est pas soutenable. Et c'est là qu'on retrouve le code de l'environnement qui est de notre côté.
Voilà, est-ce que le droit de l'environnement va leur donner raison? C'est toute la question qui se pose. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous étiez-vous à l'intérieur du tribunal où cette audience a donc duré 3 heures et vous avez entendu la rapporteure publique demander à nouveau l'annulation de l'autorisation du chantier?
Oui, la magistrate a déroulé une démonstration assez implacable. Ce qu'attaquent les opposants, c'est l'autorisation environnementale du chantier, celle qui permet de porter atteinte à des espaces à des zones naturelles, car il y a, je cite, une raison impérative d'intérêt public majeur. Mais la rapporteure publique la conteste. La barre est haute pour la démontrer, dit-elle. Et en l'occurrence, ni les arguments économiques ni de sécurité routière ne l'ont convaincue. La route nationale n'est pas plus accidentogène qu'ailleurs. Il n'y a pas d'enclavement. La population de Castres augmente même légèrement. La principale avocate des opposants, Alice Terrasse, qui porte ce dossier depuis plus de 2 ans, abonde. Que valent 20 minutes de temps de travail gagné au regard de la destruction de centaines d'espèces protégées ou de la disparition de zones humides, dit-elle. Elle s'adresse aux magistrates du tribunal. Vous devez vous extraire des pressions de l'État et du concessionnaire, dit-elle. Vous pouvez marquer l'histoire du droit de l'environnement sous les applaudissements des militants massés dans la salle d'audience.
Alors, dans l'autre camp, Rémi, il y a les représentants de l'État, les entreprises qui portent le chantier et qui ont défendu un projet indispensable, selon eux, pour le développement de l'agglomération de Castres.
Oui, l'avocat du constructeur rappelle que 1900 personnes travaillent sur le chantier. Difficile à stopper, dit-il déjà. Le représentant de l'État, lui, le directeur du projet de la 69, Yasser Abdoulhoussein, dit défendre ses habitants de Castres. Annuler l'autorisation, ce serait leur dire qu'ils n'ont pas le droit au développement. Une condamnation à perpétuité hostile, quitte à susciter des murmures dans la salle. Et il rappelle que récemment encore, à Grenoble ou Strasbourg, la justice administrative a validé des projets routiers. Le tribunal se donne 9 jours pour trancher.
Effectivement, puisque la justice se prononcera donc le 27 février prochain. Merci Rémi Brancato, en direct de Toulouse pour France Inter. Un médecin agressé dans son cabinet par un patient mécontent. La scène se répète de plus en plus souvent, disent les soignants qui s'en inquiètent et qui ne se sentent pas toujours suffisamment protégés. En témoigne aujourd'hui ce généraliste de Drancy en Seine-Saint-Denis, frappé par un patient en novembre dernier. Fracture du nez, un mois et demi d'interruption temporaire de travail. Quant à son agresseur, il vient d'être condamné à 3 semaines d'intérêt général seulement, dit ce médecin en colère. Et ça provoque, Victor Dolande, l'émoi au sein du milieu médical.
Et le premier intéressé, le médecin généraliste agressé en novembre dernier, n'a pas digéré cette sanction. Mohamed Oulmeki est toujours sous le choc.
C'est un encouragement à toutes les personnes qui ont envie d'agresser un médecin. On a légitimé l'agression sur les médecins. Allez-y, vous ne risquez rien. Moi, je ne comprends pas. On est dans une mission vraiment de service public. On rend service aux patients. On refuse personne. On ne travaille pas sur rendez-vous. Et voilà comment on est remercié.
Il vient d'être arrêté à nouveau par son psychiatre. 2 mois d'arrêt maladie. Il ne se sent pas de retravailler. Et surtout, il a peur que son agresseur revienne au cabinet. Ses confrères tentent de se mobiliser face à la multiplication des agressions contre les médecins, près de 1600 en 2023 contre 1250 en 2022. Le docteur Saïd Ouichou, installé dans les quartiers nord à Marseille, appelle à une journée de mobilisation le 12 mars. Une fermeture des cabinets des médecins partout en France.
Si on en est aujourd'hui là, c'est parce que le système de santé est tellement dégradé que les gens vivent une énorme frustration qu'on peut comprendre, mais qui passe à l'acte. Et là, c'est des choses qu'on refuse complètement. Aujourd'hui, j'appelle vraiment à protéger les médecins. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger de la part des personnes qui nous agressent et nous sommes en danger face à la justice qui ne rend pas justice.
Plusieurs syndicats ont annoncé qu'ils participeraient à cette mobilisation prévue à une date symbolique le 12 mars prochain, journée européenne contre la violence dans les soins de santé.
Victor Dolande, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Cela concerne très exactement 236 900 voitures et autant de particuliers, de familles qui vont voir leur quotidien se compliquer un peu dans les prochaines semaines. Citroën a lancé hier soir une procédure de stop-drive. Des propriétaires de véhicules C3 et DS3 sont appelés à cesser immédiatement d'utiliser leur véhicule car leurs airbags risquent d'exploser. Anne-Laure Barral, vous êtes avec nous. Vous avez consacré une enquête à ces airbags de fabrication japonaise qui s'abîment avec le temps, avec la chaleur. On recense 11 décès en France, surtout en Outre-mer. On va y revenir avec vous. Mais voyons d'abord l'impact économique. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Le groupe Stellantis avait déjà rappelé des véhicules dans le sud de la France. Cette fois, c'est le nord qui est concerné et ce nouveau rappel va coûter beaucoup d'argent.
Ah oui, les calculs ont déjà été faits. D'après le patron de Citroën, Stellantis, la maison mère, a estimé le coût à 940 millions d'euros. Le rappel de l'ensemble des 9 millions de véhicules concernés en France et ailleurs par ce problème d'airbag. Il l'a fait savoir dans la presse. Si le groupe n'a pas encore dévoilé son résultat global pour 2024, sur le troisième trimestre de l'année, malgré une baisse, il a annoncé un chiffre d'affaires net de 33 milliards d'euros. Bernard Julien se veut, lui, confiant pour l'avenir de Stellantis. Il est maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile.
Il ne me semble pas que le problème soit d'une ampleur telle qu'il faille craindre pour Stellantis le passage par une phase d'entrée en crise. Stellantis est parfaitement à même, sur son résultat courant, d'encaisser le coût de la campagne de rappel actuellement en cours. On a tendance, à chaque fois que des problèmes de ce type se posent, à surévaluer l'impact que ça aura sur les ventes. On l'avait fait pour la fameuse affaire Volkswagen, qui est le cas le plus emblématique. Volkswagen n'est pas mort et Volkswagen n'a même pas souffert notoirement en termes de part de marché de ce qui s'était passé lors de la crise de 2015.
À savoir le scandale de tricherie aux normes anti-pollution sur ces moteurs diesel. Du côté des syndicats de Stellantis, on est beaucoup moins serein, à l'image de Brahim Haït Atman, représentant EFO sur le site de Poissy, près de Paris.
Il y a toujours des conséquences, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ce genre de mauvaise image a des répercussions sur les ventes des voitures et sur l'emploi des salariés.
Et le syndicaliste pointe la mauvaise communication de la direction sur ce scandale et rappelle que bien d'autres entreprises sont concernées.
Mais justement, Anne-Laure Barral, c'est vrai qu'on parle là des voitures Citroën, mais ce ne sont pas les seules à être équipées de ces airbags de la marque Takata.
Non, en effet, une trentaine de marques et plus d'une centaine de modèles sont concernés. On peut les retrouver sur le site du ministère de la Transition écologique, ecologie.gouv.fr. Il y a des Mazda, des Honda, des Ford, des Toyota, des Seat. Et il faut dire qu'il y a eu des accidents avec des blessés et des tués dans chacune de ces marques en France. Même encore en décembre dernier, avec une Polo Volkswagen de plus de 10 ans en Guadeloupe, alors que la victime avait pourtant vérifié qu'elle ne faisait pas l'objet d'un rappel de sécurité, parce que les accidents ont commencé en Outre-mer prioritairement, et donc là-bas, les concessionnaires, les automobilistes sont un peu plus alertes sur le fait que l'humidité et la chaleur de leur territoire dégradent plus vite les capsules. Mais on l'a vu après, c'est arrivé aussi en France et en métropole. Et depuis cet accident, eh bien, Volkswagen a aussi émis un avis de stop drive, comme Stellantis vient de le faire, pour les conducteurs des territoires d'outre-mer. Il y a eu aussi d'autres constructeurs comme Toyota, qui avait émis des avis bien avant des 2013, quand le scandale a démarré aux États-Unis. La question qui se pose aujourd'hui, Céline, c'est combien il y a encore de véhicules en circulation équipés de ces airbags dangereux. Le ministère des Transports avait donné jusqu'au 15 février pour rappeler les véhicules concernés. Et nous, à la cellule investigation, selon les réponses qu'ont bien voulu nous faire certains constructeurs, on en a contacté une vingtaine, et bien on a estimé qu'il y avait encore 500 000 véhicules en métropole qui avaient fait l'objet d'un rappel, mais dont les conducteurs n'étaient pas venus changer l'airbag, 100 000 en Outre-mer qui sont prioritairement en danger. Après, il pourrait y avoir encore beaucoup plus de conducteurs concernés par un modèle Takata.
Et on voit, Anne-Laure, qu'il y a des victimes, des familles de victimes aussi qui se mobilisent.
Oui, souvent les constructeurs expliquent que ces accidents, c'est parce que les automobilistes n'ont pas répondu au courrier de rappel, mais ça interroge sur la façon dont se passent ces rappels, pourquoi on ne relance pas, pourquoi les automobilistes ne le savent pas. Donc il y a des familles aujourd'hui qui veulent une enquête parlementaire sur le sujet, des députés qui réfléchissent, et puis il y a des juges d'instruction en ce moment en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion qui enquêtent sur les responsabilités de chacun.
Merci à tous les deux. Luc Chemla, Service Économie, Anne-Laure Barral, Cellule Investigation. Je renvoie Anne-Laure à votre enquête diffusée dans l'émission Secret d'Info sur France Inter et qui est disponible sur l'appli Radio France.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Pas de sourire, pas de poignée de main devant les caméras. L'ambiance a été visiblement tendue ce matin lors de cette première rencontre entre Marc Rubio et Sergueï Lavrov en Arabie Saoudite. Rencontre qui marque tout de même un réchauffement inédit entre les deux pays. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans. Les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie préparent avec cette rencontre une future rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, lui semble sur le banc de touche, loin des discussions qui concerne pourtant son territoire. Volodymyr Zelensky n'est pas convié à la table des négociations. Il se rendra lui aussi en Arabie Saoudite, mais seulement demain, quand les Russes et les Américains seront partis. Bonjour Agathe Mahué.
Bonjour.
Vous êtes à Kiev pour France Inter. Alors le Kremlin dit aujourd'hui que Vladimir Poutine est prêt à négocier si nécessaire avec son homologue ukrainien. Mais on sent bien que Zelensky est isolé depuis le début de cette séquence diplomatique.
Oui, comme s'il avait systématiquement un train de retard, Volodymyr Zelensky, depuis près d'une semaine et ce rapprochement soudain entre Washington et Moscou, jamais tenu au courant, il n'a pas été informé à nouveau de la tenue de ces discussions américano-russes en Arabie Saoudite. Et si le président ukrainien se rend également à Riyad demain, c'est parce que cette visite officielle était prévue de longue date. Donc Zelensky, isolé, par ailleurs épuisé par 3 ans de conflit, et que la nouvelle administration américaine semble vouloir poussé vers la sortie, en affirmant que des élections sont maintenant nécessaires en Ukraine, malgré la guerre, comme le dit aussi la Russie. Zelensky lui continue de répéter que l'Ukraine doit et va récupérer tous ses territoires, quand les Américains, eux, affirment désormais qu'il n'est pas réaliste d'imaginer revenir aux frontières de l'indépendance en 1991. C'est le sort de l'Ukraine qui semble mis sur la table en son absence. Abandon, trahison, voilà ce que l'on ressent ici. Les Ukrainiens ont conscience de vivre un nouveau moment de bascule. Les États-Unis de Trump qui risquent de leur tourner le dos définitivement et les Européens qui peinent à s'accorder pour les soutenir pleinement.
Merci Agathe Mahué depuis Kiev pour France Inter. Les Européens en effet qui ont montré au grand jour leur désaccord hier sur la question d'un éventuel envoi de troupes en Ukraine. Mais la France veut se montrer offensive. Jean-Noël Barrot annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie pour forcer Vladimir
Vladimir Poutine a négocié, dit le ministre des Affaires étrangères ce matin sur France Info. Au Liban, les troupes israéliennes vont rester positionnées sur 5 sites stratégiques dans le sud du pays pour lutter contre le Hezbollah, annonce du ministère de la Défense. Malgré l'accord de trêve qui prévoyait leur retrait total avant aujourd'hui, le Liban proteste, parle d'occupation et en appelle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies qui accusent par ailleurs le groupe M23 d'avoir exécuté des enfants. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a confirmé des cas d'exécution sommaire par le groupe rebelle après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Et puis à Rome, le pape toujours hospitalisé, mais il a petit déjeuner après une nuit tranquille. Voilà pour les dernières nouvelles données par le Vatican. Le pape François, on le rappelle, souffre d'une infection respiratoire, source d'inquiétude grandissante chez les fidèles. Le Vatican précise que tous les engagements du pape ont été annulés pour le week-end prochain. C'est la question qui agite le monde politique depuis qu'Emmanuel Macron a proposé sa candidature. Richard Ferrand va-t-il devenir le nouveau président du Conseil constitutionnel, jugé trop peu expérimenté par certains, trop proche politiquement, amicalement du chef de l'État pour assurer cette fonction cruciale? C'est demain que tout va se jouer, puisque l'ancien président de l'Assemblée nationale sera auditionné par les parlementaires. Alors vont-ils l'adouber? Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
En tout cas, la question a suscité le débat ce matin chez les Républicains.
Oui, car les LR sont dans une position quasi schizophrène. Ils participent d'un côté toujours au gouvernement, sont membres de la coalition au pouvoir, mais de l'autre côté, ils veulent toujours se dissocier d'Emmanuel Macron pour la suite et donc de son plus fidèle allié, Richard Ferrand. Alors, que faire demain matin avec ce vote si sensible politiquement? La question est cruciale, car ce sont bien les parlementaires LR des deux commissions des lois qui en détiennent la clé. Ce matin, à l'unanimité, les députés et les Républicains ont décidé qu'ils voteraient contre Richard Ferrand, mais le contingent le plus important en nombre est au Sénat. La réunion du groupe LR vient de s'achever, sans consigne officiel, donc liberté de vote demain matin, même si la tonalité générale est très anti-Ferrand, avec une volonté de donner une leçon à l'Élysée, selon le mot d'un participant.
Et tout ça sur fond de guerre entre les chefs au sein du parti Les Républicains.
Oui, c'est la bataille Retailleau-Wauquiez qui influence tout aussi. Bruno Retailleau, ex-patron des sénateurs LR, a toujours un poids certain au palais du Luxembourg, mais en tant que ministre de l'Intérieur, il ne peut pas officiellement se mêler du vote sur Richard Ferrand. Voilà qui offre sur un plateau un argument de campagne tout trouvé à son rival, Laurent Wauquiez. Ce matin.
Quand on est au gouvernement, et Bruno l'a très bien dit, en raison de la séparation des pouvoirs, il ne peut pas s'exprimer sur le sujet. Moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir porter de façon totalement libre la parole des adhérents de notre famille, sans être prisonnier de se dire « Ah, mais moi, je suis dans tel gouvernement, avec François Bayrou, avec Emmanuel Macron, je ne peux pas complètement m'exprimer. »
Richard Ferrand risque d'être la victime collatérale du duel Retailleau-Wauquiez, résume un stratège du gouvernement. Verdict demain à la mi-journée.
Et on suivra ça bien sûr avec le service politique de France Inter et notamment avec vous. Merci Julien Nenni. Le Parlement qui va se pencher aussi sur le projet de loi d'orientation agricole que le gouvernement veut faire adopter avant l'ouverture samedi du Salon de l'Agriculture, mais qui suscite des crispations, notamment parce que le texte dépénalise les atteintes à l'environnement commises par les agriculteurs. Ça deviendrait une simple amende au lieu d'une procédure pénale, et c'est un recul pour les défenseurs de l'environnement. C'est pas le seul recul d'ailleurs, disent-ils. Beaucoup s'inquiètent du peu d'intérêt porté à l'écologie au sein du gouvernement. Et c'est dans ce contexte, Marie Mollet, qu'intervient la démission du secrétaire général à la planification écologique.
Oui, Antoine Pélion, monsieur planification écologique d'Emmanuel Macron, surnommé parfois le ministre bis de l'écologie, installé à l'été 2022 pour construire toute la feuille de route de décarbonation du pays et mettre en œuvre l'écologie à la française, vantée par le président. À l'époque, Antoine Pélion est rattaché directement au cabinet de la Première ministre, lui parle quotidiennement, droit de regard sur tous les portefeuilles. Et puis, Elisabeth Borne est partie. Et Antoine Pélion a vu défiler ses successeurs à Matignon. Gabriel Attal, qui n'a jamais fait du climat une priorité, lui préférant la crise agricole et le retour de l'autorité. Michel Barnier, qui a eu des mots sur la dette écologique, mais a taillé massivement dans le budget du Fonds vert ou de MaPrimeRénov' notamment. François Bayrou, enfin, qui a amplifié le mouvement. Mais où est passée l'influence d'Antoine Pélion et du SGPE? Lui ne dit pas qu'il démissionne pour cela, mais reconnaît que le contexte a changé en plein retour de bataille. dit-on, contre l'écologie.
Clairement, on sent qu'il y a un certain nombre de doutes, d'hésitations qui traversent, je dirais, la société française, mais plus généralement européenne, même mondiale, sur le sujet de la transition. Au sein des gens, on ne demande pas à tous les Français de tout faire tout de suite. Et je pense que ce message-là, de progressivité et de répartition des efforts, il n'a pas été bien entendu. Donc maintenant, il faut le transcrire dans le concret. Et c'est ça que je vais m'atteler à faire.
Et il plaide pour que son successeur soit réintégré directement au cabinet du Premier ministre. En septembre, lui n'avait pas été reconduit.
Ce sont les précisions de Marie Mollet. Propositions de loi, ce sont des propositions de loi défendues de concert par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Elles visent à sortir la France du piège du narcotrafic et à fixer le statut du procureur de la République nationale anti-criminalité organisée. Ces deux textes, déjà adoptés par le Sénat début février, seront examinés à l'Assemblée nationale mi-mars. Ils viennent d'être inscrits au calendrier parlementaire de manière prioritaire. L'État condamné par la justice a versé 75 000 euros à la famille d'Ivan Colonna, son épouse et ses deux enfants, en raison de la violence extrême de l'agression dont le militant indépendantiste corse avait été victime. Ivan Colonna, condamné après le meurtre du préfet Erignac et emprisonné après des années de cavale, avait été tué en 2022 par un co-détenu radicalisé. Le tribunal administratif de Marseille évoque un défaut de surveillance des détenus au sein de la prison d'Arles. Lui était convoqué par la justice ce matin pour avoir refusé de célébrer un mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. Robert Ménard, le maire de Béziers, a refusé la procédure de plaider coupable proposée par le procureur de la République. Et cela veut donc dire, Salam Daoui, qu'il sera jugé par un tribunal correctionnel.
Un refus illégal mais légitime. Jusque-là, Robert Ménard reconnaissait avoir enfreint la loi en ne mariant pas le couple. Mais depuis ce matin, il se dit coupable de rien, sans préciser la peine qui lui a été proposée. On ignore également, pour l'instant, la date de son procès devant le tribunal correctionnel. Le maire de Béziers a répété que marier un homme sous OQTF n'aurait eu aucun sens, alors que le parquet de Béziers, après enquête, avait écarté l'hypothèse du mariage blanc. Si une loi est mauvaise, eh bien il faut la changer, se défend l'élu. Les larmes aux yeux, Eva, la fiancée, parle de souffrance depuis 20 mois, depuis qu'elle a été séparée de Mustapha, puisqu'il a été expulsé. Elle est toujours en contact avec lui et d'ailleurs, elle doit aller le voir ce samedi en Algérie.
Salam Daoui, ici héros. C'est un peu David contre Goliath, ou plutôt Petit Léon contre Grand Léon dans le Périgord. Un restaurant étoilé menacé d'un procès s'il ne change pas de nom d'ici au 1er avril. L'établissement de Saint-Léon-sur-Vézère s'appelle Petit Léon en hommage à sa commune, mais ça ne plaît pas beaucoup à la chaîne de brasserie Léon spécialisée dans les moules frites qui a donc saisi la justice, Marie-Astrid Guégan.
À 6 semaines de l'ouverture, le chef Nico Neyman a les yeux creusés, l'air soucieux. Il prend les mains de sa femme, Sina, dans les siennes.
C'est notre enfant, le Petit Léon. On a un petit restaurant, c'est juste moi et Sina. C'est unique, c'est pas comme les autres cuisines et c'est pas moules frites.
Loin des moules frites de Léon de Bruxelles, le Petit Léon sert des produits locaux ultra travaillés, magret, bœuf du Limousin. Aucune confusion possible pour Sina. Elle est désespérée quand elle lit les menaces de la chaîne de brasserie.
60 000 euros ou 3 ans dans les prisons. C'est David et Goliath. On n'a rien. On n'a pas de l'argent pour des avocats comme eux. L'énergie, on n'a pas. Pour eux, c'est peut-être c'est presque comme un jeu. Pour nous, c'est notre vie. Notre équipe, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut ouvrir?
Ça fait 6 ans que Sina et Nick donnent tout pour leur resto jusqu'à la consécration, l'étoile Michelin l'année dernière.
Les guides Michelin, il a le Petit Léon dedans. Toutes les guides, le Petit Léon. Toutes des bouches d'oreilles, le Petit Léon. Si on change, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui a fêté son mariage dans le resto. Nick et moi, nous avons acheté il y a que quelques années, mais le restaurant, c'est quelque chose avec beaucoup d'histoire.
Et pour pouvoir prouver cette histoire, le couple lance un appel aux habitants du coin. Ils cherchent toutes les photos, toutes les archives sur les 30 ans de vie du Petit Léon.
Reportage ici Périgord de Marie-Astrid Guégan. C'est un site qui fonctionne grâce à ses dizaines de milliers de contributeurs qui remplissent des pages sur tous les sujets possibles et imaginables. Le modèle collaboratif de Wikipédia est menacé. En tout cas, l'encyclopédie en ligne a publié hier une lettre ouverte intitulée « Non à l'intimidation des contributeurs bénévoles ». C'est une info de nos confrères de France Culture et ça fait suite, bonjour Juliette Bourgault,
bonjour Céline,
à des menaces proférées par un journaliste.
Des menaces, c'est le terme employé par Wikipédia. Samedi, un journaliste du Point a envoyé un email à Fred D, un contributeur de Wikipédia sous pseudonyme, pour lui indiquer qu'un article allait être publié à son sujet avec sa véritable identité et sa fonction. Pour Étienne Gernel, directeur du Point, il n'y a là rien de menaçant.
depuis quand enquêter et faire des articles, c'est faire des menaces. Ça les embête parce que tous ces gens-là travaillent de manière anonyme. En fait, ils travaillent comme travaillent des trolls sur les réseaux sociaux, en se masquant leur identité et en racontant n'importe quoi. En fait, on a le pire des réseaux sociaux sur Wikipédia.
Et depuis un an, Le Point se dit victime de harcèlement de la part de plusieurs contributeurs. Sur la page qui lui est consacrée, la ligne éditoriale de l'hebdomadaire est qualifiée d'islamophobe. Et sur la sienne, Étienne Jernel a été pointé responsable d'une trumpisation du journal. Mais cette mention n'apparaît plus. Rémi Matisse, l'ancien président de Wikimedia France, réfute tout acharnement.
Wikipédia n'est pas de droite ou de gauche. Il peut y avoir des biais chez les Wikipédiens, mais le principe est justement qu'il y ait des gens qui sont suffisamment divers pour que ça fonctionne. C'est un petit peu embêtant qu'il y ait ces attaques contre Wikipédia. Là, il y a une volonté de polémique.
Et de son côté, Le Point réclame à l'encyclopédie en ligne l'ajout d'un bandeau sur sa page pour préciser l'absence de consensus sur sa ligne éditoriale.
Merci Juliette Bourgou pour toutes ces précisions. Et puis on en vient à cette image inédite des drapeaux chinois le long du chenal des Sables d'Olonne. Le skipper Jin Kunshu est arrivé ce matin, 100e marin de l'histoire, a terminé le Vendée Globe, mais aussi le premier skipper chinois sur la course. Parti avec le plus petit budget à bord de l'un des plus vieux bateaux, il termine à la 30e place après 99 jours et 19 heures de course. Une belle performance pour celui qui a été amputé du bras gauche à l'âge de 12 ans et un beau symbole aussi, a-t-il dit à son arrivée.
Ah!
C'est le jour que mon rêve devient la réalité. C'est le jour où je suis le plus ému. Parce que j'ai travaillé vraiment très très dur. On a payé beaucoup 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 pour en arriver là. Pendant la course, j'ai reçu plein de messages. Il y a des enfants qui m'ont fait des dessins. Il y a des enfants qui chantent pour moi. Il y a même des enfants d'une école de Marseille. Ils ont mis une chaussette sur une main pour travailler pendant toute la journée juste avec une main en simulant ma condition. Et ça m'a vraiment... ému. Donc aujourd'hui, le rêve devient réalité. C'est vraiment incroyable.
Elle a la joie et la fierté du skipper chinois Jin Kunshu à son arrivée tout à l'heure au Sable d'Olonne. 13h26 sur France Inter. Restez avec nous dans la prochaine demi-heure. On va retrouver les prévisions d'Élodie Calac de Météo France et puis on va accueillir notre invité qui est docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité. On va parler avec Fabrice Rizzoli de la Corse. Après la mort d'une étudiante de 19 ans tuée par balle, sans doute par erreur, troisième homicide de l'année sur l'île et des autorités locales qui tentent de lutter contre la criminalité organisée. J'attends vos questions. 01 45 24 7000. Une semaine dans leur vie, suite de notre feuilleton cette semaine, dans les coulisses du Salon de Montrouge, salon d'art contemporain très réputé au sud de Paris. Et dans l'épisode du jour, Julien Baldacchino nous emmène à la rencontre d'un artiste au profil atypique. 13h50, c'est la France. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France, où partons-nous aujourd'hui ensemble?
Eh bien, de Mélin dans les Côtes d'Armor à Paris, en passant par Tournu en Saône-et-Loire, je vous emmène chanter, Céline, on file au karaoké.
Je vais pas trop chanter, moi je compte sur vous, Cyril, à tout de suite. Et puis on va chanter aussi, bon allez d'accord, avec Frédéric Pommier. Semaine spéciale Beatles dans C'est une chanson. Aujourd'hui, le musicien Michael Jones parle de la chanson From Me to You, moins innocente qu'il n'y paraît.
Quand on traduit mot à mot ce que disaient les Beatles en français au début, ça fait un peu gnagnon, mais on oublie tout le côté sexuel derrière. Parce qu'il y a un tas de jeux de mots qu'on peut pas comprendre en français.
Voilà le guitariste Michael Jones au micro de Frédéric Pommier pour nous emmener jusqu'à 14h. À tout de suite.
France 2, demain soir.
Moi, mon contrat, il est pour 21 chambres. Depuis 4 mois, j'en fais 40.
C'est nos corps, c'est nos vies qui sont abîmées.
Si vous êtes pas contente, il y a le Pôle emploi juste en face.
Ouais. On fait rigoler, là, avec votre grève. Ils sont trop puissants, ces gens-là.
Franchement, on a quoi à perdre?
Inspiré d'une histoire vraie, Frottez, frottez, la nouvelle série inédite. Demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
France Inter, partenaire de l'attachement, un film de Karine Tardieu.
On fait la course?
J'ai pas envie de faire la course, facile-toi.
Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant.
Sandra est une quinquagénaire farouchement indépendante. Soudainement projetée dans l'intimité de son voisin Alex et de ses deux enfants, elle va pourtant s'attacher peu à peu à cette famille d'adoption.
Il n'y a que de l'amour dans ta vie, Alex.
L'attachement avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille. Au cinéma le 19 février, un film France Inter.
La météo sur Inter.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors c'est une journée ensoleillée, fraîche au nord mais douce au sud. Hein.
Oui, on garde ce contraste de température. C'est trop juste sur le nord mais c'est printanier sur le sud-ouest. Alors comptez 4 à 11 degrés au nord jusqu'au Lyonnais cet après-midi. 11 à 12 sur la Bretagne, 13 à 16 autour de la Méditerranée et 15 à 20 degrés sur le sud-ouest. Côté ciel, beaucoup de soleil, alors un petit peu voilé malgré tout. Les nuages sont plus épais de la Bretagne et du Cotentin vers la Nouvelle-Aquitaine. Il peut rester quelques nuages bas vers le sud de l'Alsace. Et puis en Méditerranée, là c'est plus nuageux. Alors, on garde de belles éclaircies quand même sur l'ouest de la Corse, la Côte d'Azur, la Provence. Mais les nuages dominent sur une bonne partie est et nord de la Corse avec quelques pluies. Et c'est sur le Languedoc-Roussillon que le ciel est le plus encombré avec quelques gouttes possibles, un vent de sud-est marqué. Et puis pour demain, un ciel souvent très voilé, des nuages plus épais sur le nord-ouest et autour de la Méditerranée aussi avec un petit peu de pluie.
Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Une jeune femme de 19 ans tuée par balle alors qu'elle conduisait une voiture, sans doute prise pour cible par erreur. Ça s'est passé samedi soir à Pontelleccia, commune du nord de la Corse. Une mort qui choque et qui vient s'ajouter à une longue liste. Il y a eu l'année dernière en Corse 18 homicides, 16 tentatives d'homicide, ce qui place l'île au premier rang national en la matière, selon le préfet qui évoque, je cite, un contexte de violence entretenu par des groupes liés à la criminalité organisée. Alors comment expliquer ce contexte justement? Comment surtout sortir de cette violence? Question que l'on va poser à notre invité Fabrice Rizzoli, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le studio du 13-14. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité. Vous présidez, vous avez cofondé d'ailleurs une association qui s'appelle Crime Halt. Alors est-ce que ça peut servir ce qui s'est passé ce week-end d'électrochoc?
La société civile corse s'est déjà mobilisée après le préfet Erignac et d'autres assassinats, mais très clairement, ce qui s'est passé le 23 décembre déjà, où un jeune pompier a été assassiné...
Dans un bar.
Dans un bar, et bon, on parle d'histoire personnelle, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce qui s'est passé là avec cette jeune femme, je suis allé deux fois à Ajaccio au mois de janvier, et il y a un vrai ras-le-bol qui essaime une partie beaucoup plus large de la société, alors qu'avant c'était des gens très conscientisés qui se rebellaient. Et puis alors, pour ce qui concerne la jeune femme, le déversement de déclarations publiques de la part d'institutionnels, de maires, d'anciens maires, etc., pour dire que c'est horrible, je ne dirais pas que c'est une grande nouveauté, mais là, on touche quand même un ras-le-bol vraiment important.
Alors, comment vous l'expliquez? On ne va pas faire l'enquête avant l'enquête, évidemment, ni tirer de conclusion, hein, car les enquêteurs sont en train, évidemment, de tenter de comprendre ce qui s'est passé réellement. Mais est-ce que vous diriez que c'est le côté victime collective, latéral, en tout cas d'après ce qu'on peut voir, des premières hypothèses qui suscitent autant de réactions indignées?
Deux choses. Il y a depuis déjà 5 ans deux collectifs anti-mafia en Corse, dont un qui s'est fondé pour la défense de la mémoire de leurs victimes, donc le collectif Maxime Souzini, et on ne leur donnait pas 2 mois d'existence, et ça fait 5 ans qu'ils pétrissent le territoire, si je puis m'exprimer ainsi, pour conscientiser, et je pense que leur travail est en train de payer. Malheureusement, ils s'associent à des victimes dont vous venez de parler. Personnellement, je n'emploierai pas le terme de collatéral parce que ça fait référence à une guerre légitime où des civils pourraient mourir. Là, c'est une guerre illégitime faite par des gangsters qui se trompent, que la cible, la personne décédée soit par méprise, comme dirait Corse Matin, ou qu'elle soit pas par méprise, car je rappelle aussi qu'on tue des innocents pour les écarter, qu'on tire sur... voilà, donc c'est plutôt le concept de victime innocente, et vous avez raison, ce qui vraiment choque ici, c'est le profil de la victime, une jeune femme, étudiante, combien même dans sa famille il y aurait, etc., mais donc non impliquée dans le trafic, et là ça crée de l'émoi, donc c'est bien la preuve que si vous voulez mobiliser les gens pour une citoyenneté active et pour changer les choses, vous devez vous appuyer sur la défense de la mémoire des victimes innocentes. C'est plus compliqué de défendre avec toi la mémoire des victimes, des gangsters qui s'entretuent entre eux.
Alors vous parlez de ces deux collectifs anti-mafias qui ont appelé à un nouveau rassemblement. Il y en a eu déjà plusieurs au cours des derniers mois. Un nouveau rassemblement samedi prochain à Ajaccio, justement en réaction à ce qui s'est passé ce week-end. Alors je ne vais pas vous demander de vous en faire le porte-parole, mais finalement, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui, au-delà de la réaction et de l'hommage et de l'émotion légitime?
Oui, alors ils demandent deux choses. Une persévérance de l'État dans la lutte contre le crime organisé, avec beaucoup plus de moyens. Donc il demande par exemple la création d'un délit d'association criminelle et pour certains d'association mafieuse, qui permettrait de sanctionner beaucoup plus sévèrement et de manière beaucoup plus efficace ces groupes criminels qui tuent, y compris pour faire du business légal. Ce délit existe en Italie, il a démontré son efficacité. Il demande d'autres choses, comme certaines déjà obtenues, une confiscation obligatoire, voire des confiscations plus pratiques à appliquer pour enlever l'accumulation du capital, les réserves d'argent qui permettent à ces gens d'être riches, d'acheter des magasins, et y compris de tuer. Et il demande quelque chose de plus local, qui est en lien avec l'actualité, puisque la collectivité territoriale de Corse a fait des sessions d'études sur la mafia et l'antimafia, ou les dérives mafieuses, sessions qui avaient été obtenues grâce à la poussée au lobbying des collectifs anti-mafia, parce que l'exécutif ne voulait pas le faire, c'est fait. Il y a un rapport qui sort là, et une session extraordinaire pour présenter ce rapport le 27 février. Et là, on attend beaucoup d'une collectivité territoriale qui n'a pas le pouvoir de monopole de la violence légitime, le pouvoir régalien, mais qui peut faire beaucoup de choses en matière de surveillance des marchés publics et d'éducation dans les lycées et dans les collèges pour la jeunesse. Il faut parier sur l'avenir pour sortir de cette spirale de la violence.
Alors justement, vous parlez de cette session de l'Assemblée de Corse consacrée aux dérives mafieuses, hein, je crois que c'est le terme qui a été choisi, le 27 février prochain. C'était très attendu, c'est un marqueur fort, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aussi des élus locaux.
C'est une prise de conscience, mais quid de ce qu'il y a dans le rapport? Qu'est-ce que va nous proposer, enfin, ce que va proposer aux Corses la collectivité territoriale? Donc c'est ça qui va être analysé, scruté par les collectifs, et ils demandent vraiment une implication. Encore une fois, par exemple, sur la problématique des déchets, il y a une privatisation en cours. Le collectif Maxime Susigny a fait une énorme recherche. Pour l'instant, la privatisation, c'est un grand risque de pénétration mafieuse dans l'économie légale. Il y a déjà eu des assassinats pour prendre possession d'entreprises qui traitent des déchets. Il y a régulièrement du racket, des incendies, des entreprises et des moyens pour faire tourner la boîte, donc le camion, etc. Et là, si la collectivité territoriale se rate, si demain ces marchés publics sont donnés aux voyous et à leurs complices, ils auront raté quelque chose de très important. Et encore une fois, je pense que la collectivité territoriale peut jouer beaucoup sur les symboles, et qui ne sont pas des symboles, et rentrer dans le concept de victime innocente. Il est important aujourd'hui que cette collectivité territoriale fasse son rapport au nom de Jean Livrelli, ce retraité qui a été confondu pour une autre cible et qui est décédé il y a plus de 5 ans. On attend le procès. Il a dit avant de mourir, je n'ai jamais fait de mal à personne et on me tue. Et ce n'est pas le seul. Il y a des procès en cours qui vont montrer que tout le monde peut mourir, comme vous dites, par erreur, du crime organisé en France.
Pour revenir au constat, justement, vous qui êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité, en quoi, justement, cette criminalité organisée en Corse, elle est différente de celle qu'on peut connaître sur d'autres territoires, parce qu'évidemment, elle n'en a pas l'exclusivité.
Vous avez une permanence, depuis la fin des années 70, de groupes criminels, qui, même si certains se sont autodétruits, mais je suis très surpris de voir que ça aurait pu être un affaiblissement. Non, en fait, d'autres groupes ont émergé, sont toujours là. Cette permanence depuis 30-40 ans, c'est quand même un marqueur de puissance du crime organisé. Ensuite, vous avez en Corse une surreprésentation des assassinats, encore que c'est parce que c'est lié au nombre de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assassinats du crime organisé sur 350 000 habitants. Vous avez presque le même nombre d'assassinats à Marseille, mais ils sont un peu plus nombreux. Donc là, le pourcentage... Le ratio n'est pas le même. Donc il y a quand même quelque chose de très inquiétant. Il faudrait vraiment faire baisser cette spirale de la violence systémique, qui est très forte en Corse. Il y a tous les infractions qui semblent moins graves, en théorie, sauf quand on s'intéresse à ces phénomènes, le racket. Et ça, pour le racket, il faut beaucoup plus d'officiers de police judiciaire qui puissent apporter la preuve, protéger les commerçants qui témoignent. Parce que le problème, c'est que le racket, pour le prouver, vous avez besoin de quelqu'un qui se plaint, qui porte plainte. Sauf que c'est compliqué de porter plainte. Voilà, vous êtes dans une société de proximité en Corse, où vous risquez aussi votre vie, c'est ce que montrent les chiffres. Et donc, l'État, là, doit être beaucoup plus prégnant. Enfin, il y a la corruption. Alors, on ne peut pas parler sans être condamné pour diffamation, mais enfin, vous avez aujourd'hui une magistrate qui est poursuivie pour plus de 7 délits, et pas que des délits d'atteinte à la probité, qui semblent en lien avec un membre du grand banditisme, et il y a une instruction qui est en cours. Vous avez un policier qui donnait des informations, il est en procès, et vous avez d'autres exemples qui ont été jugés. Je rappelle que c'est un élu de la République qui ramenait l'argent de la Brise de Mer en avion, la Brise de Mer qui s'enrichissait avec les cercles de jeu à Paris. Donc, il a été condamné pour un tout petit délit d'infraction de transporter de l'argent illégalement, mais il était en lien avec le crime organisé, c'est le plus puissant.
Alors, si on parle des bandes criminelles aujourd'hui, est-ce qu'il y a un profil type, justement, des gens qui peuvent rejoindre ces groupes ? Est-ce qu'on sait un peu de qui il s'agit ?
Ça manque d'enquête sociologique et d'enquête universitaire, comme on pourrait en avoir en Italie.
Est-ce que c'est des jeunes, par exemple ? Est-ce qu'il y a un rajeunissement ?
Alors oui, l'argument du rajeunissement, moi, j'y crois pas trop. Je rappelle que la France des années 30 et 50, c'est des filles de 16 ans qu'on met sur le trottoir sans vergogne. Donc cette histoire de rajeunissement, qu'il y a des gens qui étaient fichés au grand banditisme à 24 ans, la majorité était à 21. Mais ce qui change, c'est qu'à Marseille, aujourd'hui, un gamin à 14 ans peut aller tuer. Ça, c'est un vrai rajeunissement. Mais sur l'implication pour faire le guet, etc. Donc dans la société corse, encore une fois, si on prend l'exemple de la Brise de Mer, fin des années 70, ce sont des jeunes de 20 ans qui dégomment un gang qui était là, voilà. C'était déjà des jeunes. Aujourd'hui, on a l'impression de moins les connaître, parce qu'on avait l'impression de cette représentation d'une criminalité corse bien établie, cette Brise de Mer avec des messieurs de 50 ans, 60 ans, qui duraient. Là, vous avez effectivement des jeunes qui s'impliquent beaucoup plus dans le trafic de drogue. C'était pas le cas avant. En gros, avant, on saisissait 100 grammes, 150 grammes, il y a 20 ans, 25 ans, c'est ce que disent les procureurs. Aujourd'hui, on saisit en kilos, et on saisit de la cocaïne. Avant, on saisissait un peu d'héroïne pour les toxicomanes de l'époque. Là, on saisit des kilos. Donc, il y a de quoi s'inquiéter, parce que la cocaïne, c'est une grosse plus-value. Et donc là, s'ils arrivent à la vendre, ils peuvent avoir des moyens importants.
350 armes pour 1000 habitants, selon la police, contre 150 au niveau national. Le préfet veut organiser une opération déposer les armes. Est-ce que c'est une bonne solution ?
Ça marche parfois. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des armes. Ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, les études montrent que les armes, quand on en a, on s'en sert. C'est-à-dire, si vous voulez, excusez-moi de la comparaison, mais on s'interroge sur la dangerosité des jeux vidéo, est-ce que ça rend les gens violents ? J'ai entendu une chercheuse il n'y a encore pas longtemps, sur vos chaînes, qui disait, j'ai interrogé toutes les sources, non, ça ne rend pas les gens violents. En revanche, quand on a une arme, malheureusement, on s'en sert. Alors, évidemment, tous ces gens qui ont des fusils de chasse, ce n'est pas tous des tueurs en puissance, ce n'est pas la question. Mais il y a peut-être trop d'armes en Corse, comme parfois il y en a trop ailleurs, et il faut mettre en place des plans pour réduire le nombre d'armes, c'est sûr.
Alors, parmi les plans, justement, qui sont en préparation, le procureur de Bastia demande à élargir le statut de repenti, créer des cours d'assises spéciales. Est-ce que ça aussi, ça peut aller vers le bon sens, donner plus de moyens à la justice, ou en tout cas des moyens plus précis, en tout cas ?
Alors là, c'est certain. Il y a une impunité plus forte en matière d'assassinat de professionnels, ceux qui préméditent, qui détruisent les preuves, etc. Il y a une impunité plus forte en Corse qu'ailleurs. Ils savent mieux faire, La justice n'est pas efficace dans ce domaine. Alors donc ça nous donne beaucoup de morts, il faut lutter contre ça. Il y a deux choses très importantes. Le statut de coopérateur de justice, ces personnes qui peuvent témoigner en étant protégées. Le Sénat vient de le voter, ça fait 10 ans qu'on le demandait, il a été élargi, y compris aux assassins. Avant, on ne pouvait pas protéger un assassin, il ne pouvait pas rentrer dans le statut de coopérateur de justice au motif que c'était pas moral. Simplement, c'est pas une question de morale. La personne va être condamnée, elle va faire de la prison, mais par contre, elle va être protégée, elle et sa famille. Protégée en prison, parce qu'ils vont en prison, et protéger leur famille et après la prison. Donc ça permet de résoudre des homicides, et en Italie, ça a fait baisser spectaculairement les homicides de la mafia. Parce que le chef qui commandite ou qui a participé, il est condamné lui aussi à 30 ans à la prison à vie, donc il réfléchit à deux fois avant de commettre des assassinats. En Italie, la mafia ne tue plus, ça c'est très important. Et vous parliez du statut de coopérateur de justice et d'un autre argument.
Ça, des cours d'assises spéciales.
Oui, on n'était pas trop favorable à Crimal, parce qu'en Italie, on n'a pas eu besoin de cours spéciales faits de magistrats professionnels, c'est encore des jurés populaires qui jugent des mafieux et qui les envoient à la prison à vie. Simplement, les Corses, les collectifs corses qui sont venus avec nous dans des projets Erasmus, qui sont venus se ils nous ont expliqué à quel point cette société de proximité faisait que les jurés avaient beaucoup de mal à condamner. On a quelques scandales avec donc le nom des jurés qui sont dans les téléphones portables des familles qui sont impliquées, qui sont pour leurs membres, sont au tribunal pour assassinat. Donc vous avez des procès. Là, vous avez par exemple un procès en Corse. L'appel, ça fait 5 ans qu'on attend. Ça a tellement été un procès sur une criminalité corse, ça a tellement été scandaleux le premier procès. Donc la justice française est prise en défaut et on attend toujours l'appel. Vous en avez un autre qui vient d'être dépaysé. La personne a été relaxée, bon, elle a le droit, mais on a senti qu'il y avait tellement de pression sur les jurés que le procès va avoir lieu en 2025 à Paris. Et donc ils nous ont un peu convaincus que des magistrats professionnels pour juger ces grandes affaires criminelles corses serait plus efficace, donc don d'acte.
Et auprès de qui portez-vous justement ces propositions lorsqu'elles vous convainquent voilà, tout ce changement législatif, oui, judiciaire que vous souhaitez. Qui est votre interlocuteur? Qui, avec votre association, alors, parce que vous avez la casquette de l'association, alors, au-delà de celle du chercheur.
En l'occurrence, nous, depuis 10 ans, on dit qu'il faut modifier, même avant, certains dispositifs. On a emmené des gens avec des projets européens en Italie. Ils ont vu les biens confisqués, réutiliser la défense des mémoires des victimes innocentes. Ils ont eu des ateliers sur la confiscation. Ils ont rencontré un repenti, comme on dit, parce que pour le coup, lui, il est vraiment repenti. Donc, un ancien coopérateur de justice qui a dit, devant des mamans, il a dit, ou des victimes corses, il a dit, j'ai tué, il a rencontré son premier homicide et tout, puis j'ai voulu arrêter au 4e homicide, je voulais pas que mes enfants grandissent comme ça. Donc, on peut sortir de ça. Ils ont compris ça, ils sont revenus. Et avec eux, notamment avec le collectif Maxime Souzigny, on rédige des amendements et on est reçu par les sénateurs, par les députés. On a déjà fait voter la confiscation obligatoire des instruments et des produits du crime en 2024. Et là, on a refait voter des amendements, encore une amélioration de la confiscation au Sénat, et on revient à l'Assemblée nationale. On aimerait bien arriver à faire voter un instrument d'appartenance à un groupe criminel. Ça n'existe pas en France, c'est pas l'association de malfaiteurs, c'est autre chose. Le Sénat l'a édulcoré. En plus, les peines de prison sont ridicules, elles sont 3 ans, donc là, ça ne va pas. On va essayer de revenir devant l'Assemblée nationale. Bon, mais c'est un débat très compliqué, le délit d'association criminelle, le délit d'association mafieuse. Mais on va quand même faire ça, et on compte sur la représentation nationale pour nous écouter.
Un dernier mot, Fabrice Rizzoli, parce qu'on arrive au bout de cet entretien. Vous avez parlé très vite tout à l'heure de la sensibilisation, de pédagogie dans les écoles. Ouais. C'est important aussi, c'est un axe majeur.
Encore une fois, on est allé visiter des lycées à Milan où, et dans leur programme, il est écrit qu'on étudie l'antimafia. Qu'est-ce que ça veut dire? On étudie les victimes innocentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gamin en Italie qui a 20 ans, il ne connaît pas le juge Falcone qui a été assassiné en 1992. Mais en Corse, vous croyez qu'en Corse, c'est moi qui ai découvert ça en regardant un reportage de Canal+, vous croyez qu'ils savent que la brise de mer est née de l'assassinat d'une victime innocente, d'un témoin? Non, il faut faire ça dans les écoles, il faut parier sur la jeunesse, ça a montré son efficacité en Italie.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette problématique et des pistes de solutions dans le studio du 13-14, Fabrice Rizzoli. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité, président de l'association Crimalt. Bonne journée.
Merci.
Allez, place maintenant notre feuilleton dans les coulisses d'un grand salon d'art contemporain, le salon de Montrouge, au sud de Paris, qui se tient jusqu'à dimanche, très réputé, car notamment il permet de faire émerger de nouveaux talents. Cette année, une 40aine d'artistes sont représentés, beaucoup de diplômés des Beaux-Arts, mais aussi des profils plus atypiques, comme celui de Lou Motin. Cet artiste a commencé dans l'artisanat, dans la taille de pierre, avant de se lancer dans l'art contemporain. Julien Baldacchi nous l'a rencontré.
Et nous avons devant nous une fouille archéologique, comme si on était en train de creuser les sols du beffroi. C'est donc l'artiste Lou Motin qui a imaginé, genre dans 1000 ans, en 3025, des restes de notre civilisation.
Alors bonjour, moi je m'appelle Lou Motin, donc je suis artiste et de base, moi je viens pas des Beaux-Arts, j'ai une formation en artisanat. Donc notamment, j'ai travaillé en fonderie, en taille de pierre pendant plusieurs années. Dans ma pratique, je fais glaner des matériaux autour de moi pour après essayer de raconter quelque chose avec. Donc c'est vraiment une idée de conter une histoire, mais plus par des objets, par des choses qui viennent se poser. C'est une œuvre où j'ai voulu recréer un site de fouille, enfin quelque chose qui soit en mi-chemin entre un site de fouille et un chantier de construction, où on verrait émerger des morceaux de pierre ou de béton, de briques. Ce que je raconte, c'est plutôt une histoire d'après notre civilisation. Ici, c'est le rapport du GIEC que je suis venu regraver en binaire et que je suis venu accompagner de textes écrits du coup en Usemon, qui est un langage emoji créé par une autrice qui s'appelle Ezra Pontonier, avec qui je travaille.
Ça veut dire que les visiteurs vont se retrouver dans la situation des archéologues d'il y a quelques dizaines d'années, quand ils se sont retrouvés face à des langages qu'ils n'arrivaient pas à retranscrire.
Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment cette idée-là et cette idée aussi de se mettre au moment de découverte de quelque chose d'ancien, avec tout ce que ça peut apporter d'incompréhension aussi, de mauvaise interprétation. En pièce, j'ai à peu près 600 kilos de matériaux, donc ça fait vraiment quelque chose qui demande du temps. Donc en fait, quand je suis arrivé, je suis venu déjà définir avec l'équipe du salon l'endroit où j'allais pouvoir poser ma pièce. Et là, depuis aujourd'hui, je suis en train de travailler sur cette idée de comme si on avait fait une saignée dans le sol du beffroi et qu'on avait retrouvé justement ces éléments, qu'on avait commencé à les exhumer, à les travailler pour se préparer à les emmener dans un musée d'archéologie. J'aime bien créer la surprise, créer quelque chose qui n'est pas censé être là. Des matières que les gens vont avoir envie de toucher, des choses qui sont d'abord liées à avoir une forme esthétique. C'est quelque chose qui me tient à cœur.
En termes un peu plus techniques, comment est-ce que tu graves précisément ?
C'est vraiment pas du tout technologique. C'est, j'ai des poinçons qu'on peut apercevoir ici. Et en fait, je viens traduire le texte d'abord sur ordinateur. Et ensuite, j'ai un prompteur et je viens graver un par un, poinçonner et frapper chaque caractère un par un.
Pour vous, faire le salon de Montrouge, qu'est-ce que ça signifie ?
Déjà, je pense que pour moi, il y a un peu un côté reconnaissance parce que, comme je disais, c'est assez dur, j'ai l'impression, quand on est plus ou moins autodidacte, du coup, de se rentrer dans le milieu de l'art contemporain. C'est quelque chose qui est important pour moi, qui, je pense, est aussi important à porter, à décloisonner un petit peu ce côté qui peut être très dans l'entre-soi du milieu de l'art.
C'est intéressant parce que vous venez de dire que vous étiez en quelque sorte autodidacte.
En fait, c'est plus de l'ordre de la façon dont on est regardé dans le milieu de l'art, surtout quand je dis en quelque sorte, c'est-à-dire que je travaillais dans l'artisanat d'art et donc j'étais amené à côtoyer quand même potentiellement des artistes, des galeristes, plein de gens du milieu de l'art. J'avais déjà une pratique artistique personnelle de mon côté, mais dès que les gens apprenaient le fait que je venais de l'artisanat, il y avait un changement dans la façon dont ils me percevaient, où j'étais plus une potentielle personne pour exécuter que quelqu'un dont le travail valait le coup d'être regardé, je pense.
Suite demain du feuilleton signé Julien Baldacchino avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France. Le mardi, c'est avec vous, Cyril Petit du journal Ouest France. Vous nous racontez ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, petites histoires de karaoké.
Et je vous emmène, Céline, à Mélin, 1000 habitants dans les Côtes d'Armor. C'est dans ce bourg près de Saint-Brieuc qu'Isabelle et Mickaël ont racheté le relais de Margot, un bar épicerie-restaurant fermé depuis pendant plusieurs mois. Et parmi les divertissements, le karaoké. Comme ce samedi 8 février, un vrai moment de convivialité témoigne le couple dans Ouest France. C'est pour des rendez-vous comme ça que nous avons investi dans un commerce de proximité en milieu rural, des lieux qui manquent souvent en effet. Alors résultat de la soirée, un bar bondé, pop, rock, variété, tout le répertoire y est passé et ce constat des propriétaires, non, le karaoké n'est pas ringard, il est toujours à la mode et rassemble toute la population de 10 à 90 ans.
C'est pas ringard, c'est même de plus en plus à la mode.
Oui, la presse locale en relaie partout en France. Ces derniers jours par exemple, on a chanté Céline, alors juste ou faux évidemment, à Clermont en Argonne dans la Meuse, à Dompierre-sur-Bèbre dans l'Allier, ou à Roquefort dans les Landes, à Garches dans les Hauts-de-Seine, on a fredonné avec les aînés des maisons de retraite et des EHPAD, à Marcel Cave dans la Somme, il y en a un spécial enfant pendant les vacances, tandis qu'à Tournu, en Saône-et-Loire, deux associations ont organisé pour la Saint-Valentin un karaoké du Love avec une sélection des plus belles chansons d'amour ratées.
Et il y a une autre tendance, alors plus urbaine, Cyril, c'est celle des karaoké box.
Oui, moins tournée vers les autres, elle convient et rassure les plus timides et les moins talentueux. Ce concept de karaoké box, venu du Japon, se développe, il s'agit de salles privatives dans lesquelles on peut s'égosiller entre amis, entre collègues ou en famille. Alors parmi les sociétés qui en exploitent, citons Barthes, 8 salles à Paris de 4 à 15 personnes, ou Musica Marraine avec 12 espaces. À Lille, Carafun a un des plus grands complexes avec 20 salles, dont une intimiste pour deux chanteurs. Nice, Bastia, Bourges, on compte des dizaines de karaoké box en France, leur tarif moyen de 5 à 20 euros par personne et par heure. Alors j'ai appelé Arnaud Studer, créateur de l'entreprise BAM Karaoke Box qui a été précurseur à Paris dès 2014. Il propose ses salles privatisées haut de gamme dans la capitale à Bordeaux et ouvrira en mars à Chamonix. Dans la karaoké publique, dit-il, il y a parfois une notion de performance chez les chanteurs. Chez nous, on peut chanter faux sans subir le regard d'inconnu. Alors, moyenne d'âge 25-40 ans, 70% de femmes, le profil de ses clients est un peu différent de celui des rendez-vous dits traditionnels. Enfin, Céline, le karaoké se développe aussi en entreprise, c'est bon, nous dit-on, pour le team building, la cohésion d'équipe.
Bah oui, on en fait aussi à France Inter. Alors comment expliquer, Cyril, ce retour en grâce du prêt-à-chanter ?
Eh bien, sachez, Céline, que le tout premier système de karaoké a été créé au Japon en 1971. Le phénomène est arrivé en France dans les années 90. Il revient aujourd'hui à la mode grâce aux réseaux sociaux et à TikTok notamment, où des amateurs se sont filmés et se filment chantant avec les paroles qui défilent à l'écran. Et puis, le succès du jeu de France 2, N'oubliez pas les paroles, accompagne la tendance. Il dure depuis 17 ans, a fêté sa 7000e émission en décembre et les champions connaissent, eux, plus de 1000 chansons par cœur, sans les sous-titres, évidemment, puisque c'est le principe du jeu.
Bon, forcément, pour finir, Cyril, j'ai envie de vous demander quelles sont les chansons qui cartonnent dans les soirées karaoké.
Eh bien, en voici 5 fournies par BAM Karaoke Box. Confession nocturne de Diams et Vita, La tribu de Dana de Mano, Wannabe des Spice Girls, Bande organisée de Très organisée ou, et c'est ma préférée, J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.
C'est vrai que ça donne envie de chanter.
Qu'importe l'endroit.
C'est ma préférée également. Merci beaucoup Cyril Petit du journal Ouest France. Alors on va continuer à chanter avec un autre classique du karaoké d'ailleurs. Dans C'est une chanson, Frédéric Pommier nous propose une semaine spéciale Beatles. Aujourd'hui on réécoute son entretien avec le guitariste franco-gallois Michael Jones. Tiens, on en revient un petit peu à Jean-Jacques Goldman qui a choisi la chanson From Me to You, chanson qu'il a découverte à l'âge de 13 ans et qui, dit-il, a bouleversé sa vie.
On est à Welshpool au Pays de Galles. Et c'était chez un copain, la première fois que je vois les Beatles à la télé. Et quand j'ai vu From Me to You, là, j'ai vu le visuel et c'était le déclic. C'est-à-dire que c'est cette chanson qui a fait que je suis là aujourd'hui.
Vous voyez les Beatles qui chantent cette chanson à la télévision et ce jour-là, vous dites « je veux faire la même chose qu'eux ».
Je n'ai pas dit que je voulais faire la même chose, j'ai dit « j'aimerais bien ». Mais ça m'a donné envie d'apprendre la guitare. Je connaissais déjà la musique parce que je faisais de la musique celte et j'avais déjà fait des tournées avec l'école. Mais c'est une révélation. Voilà. Ça a fait qu'il y avait autre chose à faire dans la musique que ce que je faisais jusqu'à là. J'avais l'habitude de chanter en chœur parce que ça fait partie de la culture galloise. Mais la façon de chanter les Beatles, c'était juste autre chose. Normalement, on chante, bon, c'est technique, hein, en tierce et quinte, et eux, ils sortaient en quarte. Ils copiaient un peu la guitare est accordée en quarte, et ça sonnait différemment. Ça a ouvert un univers différent, fabuleux.
C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que vous êtes devenu fan des Beatles ?
Ah ben, on était tous fans à l'école, tous fous de ça. Les Beatles ont détrôné une autre star qui s'appelait Cliff Richards, qui, jusque-là, était le Elvis anglais, et qui était accompagné par les Shadows, qui était un fabuleux groupe. Je pourrais dire presque musicalement plus fort que les Beatles. Mais les Beatles avaient l'intuition d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Il y a une différence entre musiciens et artistes. Les Shadows, c'était des musiciens, les Beatles, c'était des artistes.
C'était lequel, votre Beatles préféré ?
McCartney.
Pour quelle raison ?
Pour moi, c'est un des bassistes les plus mélodiques qui ait jamais existé. C'est-à-dire que moi, le son de la guitare est plus important que le nombre de notes qu'on joue. Mais c'est aussi un chanteur extraordinaire, j'adore la voix. Et qui avait des très bons textes, malgré ce qu'on pense. Parce que quand on traduit mot à mot, ce que disaient les Beatles en français au début, ça fait un peu gnagnon. Mais on oublie tout le côté sexuel derrière. Parce qu'il y a un tas de jeux de mots...
Qu'on ne perçoit pas en français.
Qu'on ne peut pas comprendre en français. C'est comme dans, par exemple, Penny Lane. Il y a une phrase, à un moment donné, qui est « For a fish and finger pie ». Bon, un fish finger, c'est un bâtonnet de poisson. Mais un finger pie, c'est très sexuel. C'est un truc qu'on fait avec le doigt.
Je ne savais pas.
Et voilà, mais donc c'est pour ça que les textes ne sont pas forcément compréhensibles.
Cette chanson-là, quand vous l'entendez, est-ce qu'elle vous ramène directement à vos 13 ans ?
Ah, je m'en revois en train de les voir la première fois à la télé, chez mon voisin. On ne peut pas se rencontrer aujourd'hui parce qu'on a tout fait depuis. Mais eux, c'était les premiers. Ils ont amené la musique populaire quasiment au même niveau que la musique classique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'en rend même pas compte à quel point ils ont changé tout. En fait, c'est le groupe qui a tout commencé pour moi. Voilà, cette chanson a changé ma vie.
Des Beatles, la chanson qui a changé la vie de Michael Jones au micro de Frédéric Pommier. Interview diffusée une première fois en juillet 2024.